Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Marie Mélinon. Bonjour.
Bonjour.
Marie Mélinon, tu es ici pour nous parler de 2 rendez-vous que tu nous proposes dans le cadre de Inventons Demain, ce festival pour une pédagogie du geste à avoir pour réduire l'empreinte carbone vu le contexte climatique actuel. Et pour cela, tu proposes 2 ateliers, l'un qui s'intitule Fresque du numérique, donc qui aura lieu donc jeudi 12 mars, ça sera à l'avant-poste, de 18 à 21h. Ouais. Et la deuxième proposition sera celle de la fresque des nouveaux récits. Et ça, ce sera samedi 28 mars de 14 à 17h30, toujours à l'avant-poste à Die. Ces propositions donc, sont au sein de ce festival. Est-ce que pour toi, c'était une évidence de les proposer ?
Oui, c'était une évidence. En plus, moi, ça fait à peu près 1 an que je suis, que je suis arrivée sur le territoire, en particulier à Die. Et comme ce sont des ateliers que je proposais déjà avant, je vivais à Barcelone en Espagne, donc je proposais la version espagnole de ces ateliers. Donc quand je suis arrivée ici, pour moi, c'était une autre façon aussi d'avoir de l'impact de façon bénévole dans le cadre de ce festival. Donc j'étais vraiment super contente de voir qu'il y avait cette proposition sur 1 mois avec vraiment des thématiques super différentes. Donc sur l'environnement, comme tu as commencé à l'introduire, mais aussi sur des sujets plus sociétaux, le vivre ensemble, la démocratie. Donc pour moi, c'était une façon de commencer à m'intégrer dans le territoire et mettre la pierre à l'édifice aux côtés d'une super équipe.
2 propositions. La première qui s'intitule « Fresque du numérique » et ça permet de tester un format collaboratif et ludique pour comprendre aussi l'impact environnemental de ce nouveau moyen de communication. Qu'est-ce qui va être présenté pour le DIWA qui viendra à cet atelier ?
Alors déjà, ça ne va pas être une présentation, ça va être vraiment un travail collaboratif avec tous les participants et participantes. Ça se déroule en 3 phases. Une première phase où on va prendre connaissance des concepts, de la réalité des technologies numériques donc, qui se déploient sur... on parle de l'IA, on parle des data centers, mais on va parler aussi de nos téléphones et on va aussi parler de la quantité de tous les matériaux pour les faire exister et les utiliser. Donc il y a une partie connaissance qu'on va construire ensemble. Et puis ensuite, la deuxième phase, c'est plutôt qu'est-ce que ça nous fait ressentir tout ça, en fait, d'apprendre tous les tenants et les aboutissants. Et puis ensuite, on va arriver sur la dernière partie de l'atelier qui, là, se base sur l'action, en fait. Là, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, en tant que DIWA DIWAZE, mais aussi en tant que faisant partie d'un collectif. Ça pourrait être qu'est-ce que la radio RDIWA peut faire en tant qu'entité, quoi, en tant qu'organisation, mais aussi qu'est-ce qu'on peut demander à notre gouvernement, qu'est-ce qu'on peut exiger en tant que citoyen, citoyenne. Et donc voilà, on va pouvoir avoir des pistes d'action, des actions qui sont déjà développées, qui existent déjà. On va pas parler de choses hypothétiques qui pourraient arriver un jour. C'est ça qui est bien, c'est qu'on part avec vraiment des idées, on clôture avec vraiment des idées de choses qu'on peut mettre en place. Alors pas forcément dès demain, parce que ça dépend un peu du type d'action. S'il s'agit de faire pression sur le gouvernement, ça prendra le temps qu'il faut pour monter une demande. Mais en tout cas, déjà à son niveau, on peut déjà mettre des choses en place très concrètes.
Il y a donc l'individu qui est à considérer dans votre démarche, mais aussi cette notion de la collectivité et des entreprises. Vous nous avez parlé donc de ce gouvernement ou de l'État qui devrait s'engager certainement à prendre position aussi. Il y a particulièrement dans le DIWA une proposition, je ne sais pas si tu la connais, l'IODI. qui permettent d'accéder à un stockage à moindre coût et en moins grande quantité d'un cloud local. Donc ça, c'est une des solutions aussi qui serait envisagée pour l'avenir.
Dans l'atelier, on va plutôt se focaliser sur les enjeux climatiques, un petit peu sociaux. On aborde l'aspect éthique, etc. Évidemment, ce que propose Jody, alors j'ai pris connaissance du travail de Gabriel, notamment, qui a donné une conférence il n'y a pas très longtemps à l'Avant-Poste. Ce qui est intéressant là, c'est le fait de pouvoir être autonome dans la gestion de ces données, l'énergie qui est utilisée pour faire tourner ces appareils, etc. Donc d'une certaine façon, ça va être des sujets qu'on va aborder, l'énergie utilisée, la quantité d'énergie utilisée. Donc on va retrouver ces sujets-là pendant l'atelier.
Et donc cet atelier, comment sera-t-il procédé et qu'est-ce qu'on pourra découvrir de ta part ?
Ça se passe donc en trois phases, comme j'expliquais tout à l'heure. La première phase, elle se passe avec des cartes. Et donc, on va relier relier les cartes entre elles pour identifier les différents aspects de ce qu'est le numérique, qui est un bien grand mot. Et ensuite, on va passer à une phase d'intégration des informations. Notamment, il y a une petite partie plus créative qui permet de prendre ce temps-là, de faire descendre toutes ces informations. Et puis ensuite, on va passer à la partie action. Donc c'est là où on va un peu creuser sur les différentes actions possibles, les classifier, voir ce qui, pour nous, sont les plus faciles à mettre en place demain ou celles qu'on aimerait bien gratter un peu plus, creuser et mettre en place peut-être à plus long terme.
Ces cartes, que représentent-elles chacune ?
Par exemple, il y a une carte qui est centre de données. Et donc, une partie qui est plus visuelle, c'est une photo, dans ce cas-là. Et puis derrière, on va avoir une explication de c'est quoi un centre de données et surtout, combien il y en a sur la planète, quelle consommation d'énergie ça représente. On a des cartes une carte sur l'intelligence artificielle, qui est une des nouvelles technologies les plus récentes. On va avoir des cartes sur la fin de vie, donc sur le recyclage, sur les métaux qu'on utilise. On va avoir une carte sur l'utilisation de l'eau qui est impliquée dans le minage. On va avoir des cartes sur nos appareils et numériques, donc ça peut être nos téléphones, nos ordinateurs. On va avoir des cartes sur le type d'usage qu'on en fait. Est-ce que c'est pour travailler ? Est-ce que c'est pour se divertir ? Voilà, donc il y a plusieurs niveaux de cartes pour se rendre compte de comment on utilise le numérique, de quoi on a besoin matériellement pour que ça advienne. Et quels impacts ça a, du coup, sur l'énergie, sur les matériaux, et puis après sur les personnes qui vont permettre qu'on puisse les fabriquer. Donc, par exemple, les personnes dans les mines, quelles conditions ils ont pour travailler, ou l'utilisation de l'eau, que ce soit pour miner ou pour refroidir les centres de données. Donc voilà, en fait, on va un peu voir. Et puis, jusqu'à la fin de la vie de l'appareil, donc qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il ne fonctionne plus, ou une fois que nous, on a décidé de ne plus l'utiliser, qui est deux choses différentes. Donc, par exemple, on va aussi faire la différence entre ça, la fin de vie que nous, on a décidé, et la fin de vie qui est de fait parce que l'appareil ne fonctionne plus.
Certainement que pendant cet atelier, vous indiquerez aussi les sources d'informations possibles pour l'individu, à savoir ce qui existe en captation de données et d'informations sur cette connexion numérique de ce qui et notre quotidien maintenant.
Effectivement, les deux ateliers que j'anime, donc celui-là, la fraise du numérique en particulier, est basé sur des informations chiffrées et mises à jour régulièrement. Là, on va jouer avec la version numéro 3, donc, qui est actualisée notamment avec les premières informations chiffrées sur l'intelligence artificielle. C'est notamment des données du CNRS, mais aussi d'un centre d'études qui s'appelle Green IT, qui est français et qui est assez avant-gardiste sur les études chiffrées sur le numérique. Donc ça fait partie des sources qui sont utilisées et qui sont convoquées pour mettre à jour les informations. Et de toute façon, moi, ce que je fais à la fin de chaque atelier, c'est que j'envoie toute cette bibliographie pour si les participants et participantes veulent creuser certains sujets en particulier et aller lire les études et se mettre à jour régulièrement sur tous ces sujets-là.
Alors, qu'est-ce qui pourrait être important pour l'individu à connaître et que vous allez pouvoir démontrer ?
Alors, j'ai pas envie de spoiler, comme on dit, ou de divulgâcher, mais je peux vous donner quelques petites pistes. On va parler des appareils qu'on utilise au quotidien, des appareils connectés, et donc du coup, on va aussi discuter de comment faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps. Parce que on va mettre en évidence le fait de plus on a d'appareils, plus on va devoir trouver les matériaux et ça va enchaîner tous les impacts environnementaux reliés. Donc, comment faire pour que nos appareils existants qu'on a déjà dans nos mains durent le plus longtemps ? Comment faire pour forcer aussi les fabricants à ce que leurs appareils soient durables ou soient réparables ? Donc, on va parler aussi de tous ces sujets-là. Et aussi, sur l'aspect peut-être plus, qu'est-ce qu'une organisation peut faire, ou qu'est-ce qu'en tant que personne dans une organisation, qu'est-ce qu'on peut leur exiger. Il y a aussi utiliser des matériaux reconditionnés ou de seconde main qui vont faire que on n'aura pas eu besoin de reconstruire ou de construire des nouveaux appareils, etc. Ou qu'est-ce qu'on pourrait exiger auprès de l'État pour forcer, par exemple, les fabricants à ce que les matériaux soient durables. Ou qu'on ne nous mette pas la publicité dans la tête pour acheter la dernière version de l'iPhone ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va aborder pendant l'atelier.
Il y a aussi ce réflexe, on est tellement entouré d'appareillages qu'il y a cette notion de mise en veille qui néanmoins consomme de l'énergie. Et ça, c'est aussi une discipline à acquérir.
Effectivement, on va parler de la consommation de ces appareils, de ce qu'on peut faire nous à notre échelle sur est-ce qu'on va éteindre. On parle souvent de brancher sur des réglettes avec un interrupteur. Comme ça, quand on va se coucher, on éteint l'interrupteur de la réglette entière. Et comme ça, tous les appareils branchés seront hors veille. Ça fait partie des choses. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en perspective les différents niveaux de consommation d'énergie. Et donc, on va avoir une idée des ordres de grandeur. Qu'est-ce qui consomme le plus et comment ? Et notamment, on va casser un petit mythe qu'on a sur les centres de données. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que j'aimerais bien que les auditeurs et auditrices viennent participer pour voir c'est quoi ce mythe qu'on va casser. Pour en donner une petite idée, on a ce mythe que c'est les centres de données qui consomment le plus en termes d'énergie. Eh ben, on va discuter de ça.
Donc, il y a l'aspect individuel, collectif. Alors, qu'est-ce qui englobe cette notion de collectivité ?
Alors, dans le collectif, il y a ce qu'on peut exiger en tant que citoyen. Et donc là, souvent, on se regroupe en tant que collectif parce qu'on veut être plus fort. Mais il y a aussi tout collectif, c'est tout groupe de personnes. Et donc, ça peut être une entreprise, ça peut être une association qui a des salariés, etc. Donc, tout ça, c'est des groupes de personnes qui ont plus de pouvoir et qui ont aussi un usage peut-être plus prononcé du numérique qu'un individu, un foyer, un ménage qui a quelques appareils chez soi. Donc, c'est intéressant aussi de discuter de, en tant qu'entreprise, quelle responsabilité j'ai de mon usage du numérique ou en tant que, par exemple, je vais avoir un cloud où je vais avoir des données sauvegardées. Qu'est-ce que ce cloud, qu'est-ce que ce centre de données, par exemple, qui va récupérer mes données, qui va stocker mes données, comment il utilise l'énergie, quelle énergie il utilise. Donc, par exemple, un centre de données, c'est aussi un collectif, disons, qui peut se poser ces questions, même si, on le verra, les centres de données, en général, utilisent depuis très longtemps déjà de l'énergie verte, mais ce n'est pas le seul impact qu'ils ont sur l'environnement, par exemple. On en parlera aussi.
Voilà, ça c'est pour la fresque du numérique du jeudi 12 mars, de 18 à 21h, à l'avant-poste, rue Notre-Dame à Die. Et pour s'inscrire, il s'agit de t'écrire à marie.melinon@gmail.com. Et puis nous abordons l'autre partie, donc les fresques des nouveaux récits. Alors peut-on éclaircir l'auditeur sur cette notion des nouveaux récits ?
Voilà, alors c'est vrai que peut-être qu'on pourra avoir l'occasion pendant cette fresque de lui donner un nom peut-être plus précis en fonction de ce qui ressortira de ça. Quand on parle de nouveaux récits, on parle de comment on imagine l'avenir. Et donc, ce qu'on fait pendant cet atelier, ça va être d'identifier les récits existants dans notre société. Donc, par exemple, des récits sur la réussite de vie, quel qu'il soit, ou c'est quoi d'avoir, c'est quoi un bon travail, c'est quoi le format de famille qu'on veut faire, c'est quoi... notre façon de nous loger, de nous nourrir, tout ça, c'est des récits existants, des normes qu'on suit dans notre société. Donc on va les identifier, on va voir un peu d'où elles viennent, les types de récits aussi. Et ensuite, on va identifier en quoi ils nous empêchent de participer à la transition écologique. Ils représentent des freins, mais on va aussi identifier en quoi on peut les désamorcer. Donc ça, c'est dans une première grande partie. Et après avoir identifié notre pouvoir d'agir, on va pouvoir décortiquer, démonter un récit de notre choix à travers l'écriture. Donc ce qu'on fait, c'est que souvent, là, dans le cas du samedi 28 mars, on va faire deux groupes, deux sous-groupes, qui vont choisir chacun une norme à démonter et à remonter et à réécrire et à réinventer. Donc c'est pour ça qu'on parle de récits et donc de nouveaux récits. Réinventer cette norme qui va pouvoir être compatible avec les limites planétaires. Donc il s'agit de l'identifier, choisir, donc en groupe, c'est un travail de groupe, d'identifier en quoi elle aura changé. C'est-à-dire, j'ai envie que ça évolue de telle façon et donc je m'imagine, je me projette en 2030, elle a changé et maintenant c'est comme ça qu'on vit sur ce sujet-là. Et on va écrire les différentes étapes par lesquelles on est passé pour arriver à ce changement de norme. Et donc, on va écrire ça à quatre mains. Donc, il va y avoir deux groupes de quatre qui vont écrire ça, leur récit de changement de norme. Et on va ensuite les lire en groupe devant les participants et participantes de l'atelier. C'est quelque chose de très souvent émouvant, alors pas forcément aux larmes, mais émouvant dans le sens que ça vraiment ça remue à l'intérieur et ça donne vraiment envie que les choses adviennent.
C'est donc ce changement d'existence, hein, on peut dire, de mode d'existence, guidé par cette intelligence artificielle, notamment. Est-ce que il y a une possibilité de passer outre ou alors ça sera irrémédiable?
En tout cas, moi je pense que dans cet atelier-là, ce qu'on voit, c'est que on se laisse aller arriver. On va avoir quand même en ligne de mire les limites planétaires avec ce qu'a été imaginé par Kate Raworth, le donut. Donc il y a un espèce de donut vert avec un plancher du minimum à avoir pour avoir une vie saine et équilibrée, et un plafond à ne pas dépasser pour ne pas trop utiliser ces différentes ressources qu'on a sur notre planète. Donc ça, c'est un peu le ce qu'il faut qu'on garde en tête, mais l'exercice, il est là pour rêver, en fait. Donc peut-être qu'il y en a qui vont rêver avec l'IA comme outil, mais en tout cas, c'est vraiment un exercice qui est là pour s'entraîner. Alors moi, j'aime bien utiliser le terme de Rob Hopkins qui parle d'un renouveau, disons, depuis des années. Lui, il dit que en fait, on entend beaucoup de dystopies autour de nous. Il y a beaucoup de films, de livres, un classique 1984 de Orwell. En fait, on en entend beaucoup et bien trop. Et du coup, c'est démotivant. Donc ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on s'entraîne à l'utopie. Donc c'est possible que tous ces récits qui sortent de cet atelier, ils sont un petit peu utopiques et pour certains, pas ultra réalistes, même s'ils gardent en ligne de mire cet objectif de respecter les limites planétaires. Toujours est-il qu'on est là pour s'entraîner, on est là pour se laisser rêver et pour se donner envie de rêver à ce monde meilleur.
Cela implique donc une prise en compte de l'entité qu'est la planète, la Terre, avec ses limites. Hein. Est-ce que justement, quand on écoute l'actualité, et notamment cette guerre entre entreprises sur l'intelligence artificielle à coût d'investissement de centaines de milliards de dollars, on semble dépassé hein, par ces propos. Quelle est notre part ici, dans notre localité du Diwa, pour cette adaptation?
Je pense que le territoire du Diwa, en tout cas pour ce que moi j'ai pu en expérimenter dans cette dernière année, et ce que j'avais déjà même entendu avant, puisque le Diwa précède sa notoriété. Dans le Diwa, en fait, il y a déjà eu beaucoup d'expérimentation de ces nouveaux récits, en fait. Des gens qui ont rêvé d'une nouvelle façon de faire, ou d'une façon différente en tout cas. Et quand on dit nouveau, c'est pas forcément technologique ou quoi. Et donc il y a déjà beaucoup de personnes qui se disent « moi j'aimerais que ce soit différent ». Donc, allons-y, essayons. Et en fait, dans le Diwa, on a une tonne d'exemples. Moi, je pense à la Carline, je pense à l'Avant-Poste, parce que je vais les citer en premier, parce que je suis usagère depuis le début, et je trouve que c'est des super idées. Mais on a aussi le monastère de Sainte-Croix, par exemple, qui a décidé de prendre les choses en main différemment, de mettre en avant l'économie sociale et solidaire, et même de faire... ensemble différemment, c'est-à-dire que c'est pas des entreprises, la Carline, l'Avant-Poste ou le monastère de Sainte-Croix, ce sont des SIC, donc ce sont des sociétés coopératives avec un intérêt collectif, donc l'idée étant de pas juste se faire de l'argent, mais donc voilà, c'est déjà rêver à une autre façon de faire. On pourrait parler d'une n'importe quelle épicerie, non, c'est pas n'importe quelle épicerie, c'est une épicerie qui a décidé de faire en collectif, où tout le monde décide ensemble. C'est déjà ça en fait. Moi je pense que le Diwa, c'est justement quelque chose qui est super inspirant de ce territoire, c'est qu'on est presque déjà dans ces récits qu'on va écrire le 28 mars, on est déjà dans l'expérimentation de ces nouvelles façons de vivre et d'expérimenter la vie.
J'avais contacté M. Giora de l'entreprise Gossev The Bee, qui est une entreprise Natural Inc. Donc il a créé un appareillage qui permet de faire fuir les frelons face à des ruches. Donc il y a un petit appareillage rudimentaire de bois et de fil de nylon géré par un petit boîtier doté d'intelligence artificielle dans lequel il a pu instruire 700 000 informations relatives aux frelons. Donc cette information permet à cet appareillage d'écarter un frelon face à une ruche. Pas forcément pour le tuer, mais de l'éloigner en tout cas. Mmh. C'est en fait donc un monsieur qui s'est mis à rechercher des nouvelles inventions liées avec l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est un moyen d'appréhender l'avenir.
Mmh, effectivement. Et ça doit être. C'est aussi tout ça, en fait, qu'on veut déclencher avec notamment ces ateliers des nouveaux récits. Alors, pas forcément spécifiquement dans l'innovation, mais l'innovation, c'est une des façons d'inventer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de. Dans ce cas-là, on parle de comment faire face à une. Comment s'adapter, parce que là, c'est purement l'adaptation à un nouveau prédateur. On parle d'un sujet de biodiversité. Ce prédateur qui est venu probablement à travers des containers. Alors, je ne suis pas spécialiste des frelons asiatiques, mais en tout cas, voilà, mondialisation. Il est probable que les frelons asiatiques sont arrivés comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les décimer, puisqu'ils sont très forts. Et ben, je trouve ça génial d'avoir pu trouver, grâce à l'IA qui est là, une façon de les effrayer, de les éloigner. Alors, à voir hein, sur le temps ce que ça donne. Effectivement, c'est intéressant d'avoir les retours des apiculteurs, apicultrices qui le testeront. Après, voilà, usage de l'IA, à voir dans quelle mesure, quelle IA, parce qu'il y a plein d'IA différentes qui reposent sur des modèles différents. Donc c'est ça aussi. Je pense qu'on a des experts sur le territoire, d'ailleurs, de l'IA. J'en connais deux à l'Avant-Poste en particulier qui ont partagé sur les sujets de l'IA il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est aussi, on peut décider quelle IA on utilise, quel modèle on utilise pour nos usages, mais aussi pour minimiser les conséquences de l'IA au maximum.
Je reviens un peu sur cette notion donc, de l'intelligence artificielle. C'est plutôt un outil à s'accommoder plutôt que d'en être esclave. En tout cas, ça, c'est le maître mot. Et je reviens un peu sur ces histoires de GAFAM. Est-ce qu'il existe, en quelque sorte, une muselière pour ces entreprises qui ne puissent pas expérimenter ou appliquer l'intelligence artificielle au détriment de l'humanité?
Est-ce qu'il en existe une?
Oui, ce qui semble fort peu probable actuellement, en tout cas.
Ah bah, en tout cas, on n'a pas les signaux qui nous le démontrent. Et c'est vrai qu'actuellement, on est plutôt à l'inverse, à la favoriser, à l'encourager, à la financer. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a envie de rester dans la course, qu'on a envie de rester compétitif, qu'on a envie de montrer que la France fait partie du lot et ne reste pas à la traîne. On verra si peut-être que c'est un mouvement qui viendra des citoyens et des citoyennes que de demander ce genre d'outils comme quelque chose qui limiterait l'usage de l'IA. En tout cas, peut-être un genre de charte éthique sur l'usage de l'IA et peut-être même qu'il pourrait y avoir des spécialistes qui nous recommandent certaines IA et pas d'autres. Si usage il y a besoin, enfin si on a besoin de l'IA, identifier vraiment est-ce que c'est le bon outil et si oui, à ce moment-là, est-ce qu'on a besoin, laquelle on peut utiliser qui sera le moins préjudiciable.
Cette proposition d'atelier répond aussi à une demande locale, ne serait-ce que dans la Drôme, sur cet abord de l'intelligence et des possibilités qu'elle proposerait pour l'avenir.
En tout cas, alors moi je ne suis pas sur le territoire depuis suffisamment longtemps pour avoir une idée de la tendance, mais en tout cas c'est clair qu'il y a une curiosité, il continue à y avoir une curiosité sur les sujets, de creuser. Alors que ce soit celui de l'IA ou sur les différents sujets reliés à la transition écologique ou même les autres sujets qu'on aborde pendant le festival, c'est vrai qu'il y a une curiosité d'aller plus loin. C'est vrai que beaucoup de ces sujets ont déjà été abordés en superficie et il y a vraiment une volonté de ne pas rester à la traîne pour comprendre et mieux maîtriser les enjeux, notamment sur l'IA, parce que c'est vraiment très nouveau, parce qu'on en entend parler dans tous les sens. Et donc, en tout cas, c'est notamment pour ça que, en parlant de l'atelier de la fresque du numérique, a été réalisé publié fin 2025, une nouvelle version du jeu, qui est la troisième version, pour inclure le sujet de l'IA, parce que les citoyens et citoyennes vraiment sont interrogés et ont envie de maîtriser mieux le sujet.
Ces nouveaux récits émaneront toujours quand même de l'humanité.
En tout cas, c'est par là que nous, on passe. Parce que je pense que les humains sont dotés de cette capacité à imaginer et à transmettre ce qu'ils ont imaginé. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me remplit quand je participe à ces ateliers et je vois les yeux qui pétillent des participants et participantes qui ont réussi à trouver cette idée, des fois farfelue, des fois pas forcément si farfelue que ça, mais le fait d'être arrivés ensemble à inventer quelque chose ou à déconstruire une norme sociale pour inventer ce nouveau, ce futur qui serait plus désirable sur les aspects qu'ils ont choisis. En tout cas, moi, ça me remplit de joie et je vois que les participants et participantes sont vraiment... Il y a ce côté, l'œil pétillant de l'enfance qui revient, et pas dans le sens négatif du terme, si ça pouvait être possible, mais c'est plus dans le sens je reprends du pouvoir sur l'avenir. Et je le fais avec joie, avec plaisir, et ça se passe bien. Et je peux le faire en groupe, en collectif, et ça aussi, c'est assez sympathique à voir parce que dans notre société, on a tendance à l'individualisme, etc. Alors, je pense que le DIY est un contre-exemple qui nous prouve bien que c'est pas toujours le cas. Et en tout cas, ces ateliers, c'est aussi une autre façon de pratiquer le faire ensemble. Et le rêver ensemble, du coup.
Cet atelier est adressé à qui ?
Alors, c'est l'un et l'autre. Là, si on parle de la fresque des nouveaux récits, c'est vraiment adressé à tout le monde. Alors, on va dire à partir de 15 ans. parce qu'il y a des concepts sociologiques un peu complexes, et puis parce qu'il faut savoir pouvoir écrire en groupe. Alors ça ne demande pas spécialement de compétences en écriture, il n'y a pas besoin d'avoir participé à des ateliers ou d'être auteur soi-même ou autrice, mais vraiment c'est ouvert à tout le monde. La partie écriture est guidée tout du long, avec une méthodologie assez simple et claire qui fait qu'on se sent accompagné tout du long de l'atelier pour produire quelque chose dès la fin de l'atelier.
Par rapport à tes ateliers proposés dans Inventons Demain, est-ce qu'il y a des corrélations sur d'autres propositions de ce festival qui pourraient appuyer un peu ou vous appuyer mutuellement ?
Alors, je sais que cet atelier des nouveaux récits sera proposé la veille aussi par un collègue à moi à la MJC de Oust. Donc, si vous ne pouvez pas participer à celle que j'animerai le 28, voilà, la mienne, c'est le 28 à Die et le 27 à Oust. Disons que moi, ce que je trouve là, que j'ai envie de remarquer, c'est quelque chose auquel j'ai participé l'année dernière, une proposition très sympathique qui se passe le long d'une rivière vers Chabeuil, où des chercheurs ont pu mettre en place ces techniques de régénération des rivières avec des techniques low-tech, donc, c'est-à-dire sans technologie numérique, entre guillemets, en utilisant les méthodes des castors. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait en partenariat avec l'agglomération de Romans-Valence. Et donc c'est très sympa comme expérience parce qu'on peut voir un avant-après. Et pour moi, ça, c'est une expression d'un nouveau récit, de qu'est-ce qu'on veut faire de nos rivières. Qu'est-ce qu'on veut faire pour éviter les crues ? Ou qu'est-ce qu'on veut faire pour augmenter la biodiversité ? Donc, disons que c'est un des nouveaux récits qui peuvent nous permettre de dire waouh, ben voilà, c'est ce genre de choses aussi auquel on a envie de rêver. Ça, c'est un exemple en tout cas.
Je reviens un peu sur cette question, l'intelligence artificielle et la nature avec ses limites. Est-ce qu'il y a une réelle prise en considération des limites de la planète vis-à-vis de la demande de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un statu quo, brusquement, la nature ne peut plus refroidir ? Est-ce qu'il y a des considérations sur cet aspect-là ?
Alors, je suis pas, encore une fois, je suis pas experte en intelligence artificielle, mais j'ai l'impression que les utilisateurs et utilisatrices ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. Alors, c'est vrai qu'on a parlé à un moment donné qu'une requête par une IA classique représentait 10 fois la consommation énergétique d'une requête sur un moteur de recherche classique. C'est une donnée. Mais après, en tant que... Alors, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais je veux remettre des ordres de grandeur. En tant qu'utilisateur lambda, utilisatrice lambda, moi dans ma vie, si j'ai besoin de faire une recherche, que je la fais sur une IA au lieu de la faire sur Google ou autre, je pense que je ne fais pas suffisamment de recherches ou de requêtes dans la journée pour que vraiment il y ait une grosse, grosse différence. Par contre, si on parle des entreprises qui ont un sacré nombre de requêtes, et il y a un exemple qui est très parlant, c'est notamment ces marques de ultra fast fashion, Temu et Shein, qui font énormément de requêtes pour pouvoir analyser nos comportements d'achat, par exemple, et pouvoir nous proposer ensuite des produits à l'achat, etc., qui correspondent exactement à ce qu'on serait susceptible de d'acheter. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là, à mon avis, qu'on doit aller et qu'on doit limiter pour empêcher l'usage de l'IA pour développer le consumisme ou consumérisme. Là, c'est moins intéressant que... est-ce que si moi, aujourd'hui, je fais mes 2 requêtes journalières sur ChatGPT au lieu de le faire sur Google, est-ce que ça va vraiment changer la planète ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, s'il fallait prioriser, clairement, c'est plutôt les utilisateurs massifs d'abord à contrôler, disons. Et en termes de la connaissance des impacts, c'est aussi pour ça qu'existent ces ateliers-là, pour donner une idée largement des impacts et de se rendre compte de, si j'utilise de l'intelligence artificielle, voilà à quoi je participe.
Le terme d'intelligence artificielle émane d'une expression anglaise où l'intelligence a une autre signification que la nôtre dans ce qui est proposé. Nous, on imagine un esprit de réflexion, mais l'intelligence, c'est avant tout de la base de données sur lesquelles s'appuient les scientifiques, notamment. Est-ce qu'il y a une évolution aussi sur lui attribuer un autre nom à cette intelligence artificielle qui est déjà assez pénible à prononcer?
Eh bien, peut-être que ça sera l'objet d'un des récits qui sortira le 28 mars, qui sait. En tout cas, effectivement, on parle plutôt de base d'informations. Quand on parle de l'intelligence, souvent les services secrets vont faire appel à leur intelligence. C'est leurs informateurs, c'est tout ça finalement. Donc oui, après il faut se rendre compte que c'est ça, et c'est pas non plus des êtres doués d'intelligence comme en français on le comprend. Et il y a toujours des humains derrière qui vont leur demander de faire ci ou de faire ça, et donc ce sera aussi des technologies qui ont des biais. Et on a déjà remarqué qu'il y a des intelligences artificielles qui ont des biais de racisme, des biais de sexisme. Et il y a aussi maintenant des... alors je ne me souviens plus du nom, c'est dommage. Mais il y a maintenant, par exemple, une intelligence artificielle antiraciste. Donc qui va filtrer les réponses pour ne sortir que des réponses qui ne seront pas racistes. Donc c'est aussi intéressant de prendre le contre-pied de ces outils-là et d'en faire quelque chose qui est vraiment à notre service et pas contre nous.
Marie Mélinon, tout comme pour l'atelier de la fresque numérique, les places sont limitées à combien de personnes ?
Alors, pour les nouveaux récits, au maximum 8, parce que je serai seule. Et pour le numérique, je peux augmenter jusqu'à 16 personnes. Voilà.
Toujours avec une inscription par mail, hein, à l'adresse marie.melinon@gmail.com.
Voilà.
Marie, merci beaucoup de ta présence à Ardua pour nous annoncer ces deux ateliers dans le cadre de Inventons Demain, qui a lieu depuis le 3 mars, je crois, jusqu'au 30 mars.
C'est ça, tout le mois de mars. Merci
beaucoup.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Catherine Schmider, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Catherine, vous êtes avec nous pour annoncer un atelier que vous proposerez dans le cadre de Inventons Demain, qui se déroule depuis le 2 mars jusqu'au 30 mars au centre Nini Chaise à Aoust. Et vous proposez donc l'empathie, ça change la vie. Vous-même étant agissante et formatrice consultante dans le domaine de la communication non violente, vous allez pouvoir peut-être nous expliquer un peu cette proposition aux auditeurs et comment ça va se dérouler.
D'accord, et ben, avec plaisir. Et ben, ça va être un atelier très très pratique. On va faire l'expérience d'écouter et d'être écouté avec l'approche de la communication non violente et d'en ressentir les effets bénéfiques à la fois pour la personne écoutée, aussi pour la personne qui écoute et aussi pour la relation entre les deux. Voilà, parce que dans nos habitudes, en fait, quand la personne qui parle, quand elle parle pas pour parler, hein, elle parle pour exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, elle a envie d'être entendue dans sa réalité. Or, dans nos habitudes d'écoute, très souvent, on n'écoute pas vraiment. Déjà, on n'écoute pas jusqu'au bout, souvent. Et souvent, on est déjà en train de préparer la réponse. Et en fait, on est plutôt en réaction. Or, quand on parle, ben, on a vraiment envie d'être complètement compris. Et l'écoute empathique avec la communication non violente, ça permet d'entendre au-delà de ce qui se dit, hein, au-delà des mots, ça permet d'entendre ce que vit la personne, qu'est-ce qu'elle ressent et de quoi tu parles d'important pour elle. Et du coup, quand on est écouté comme ça, c'est assez incroyable. De toute manière, on ne peut pas le décrire tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est pour ça que c'est un atelier très pratique. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, on repérera qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand nous écoutons. On fait ça avec les meilleures intentions du monde en général, mais ça a souvent un impact qui n'est pas du tout celui qui correspond à notre intention. Donc, ça permet aussi de repérer nos habitudes et leur impact et de choisir beaucoup plus consciemment comment on va écouter et de s'offrir de relations où il y a beaucoup plus de bien-être et de confiance. Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut se donner de nouveau un sens à ce mot, l'empathie. Est-ce que c'est un terme qui a peut-être disparu dans le monde de la communication?
Ben, l'empathie, c'est se relier à ce que l'autre vit, en fait, tout en étant... on reste chez soi et en même temps, c'est comme si on s'approchait vraiment de l'autre, de pouvoir percevoir qu'est-ce qu'il ressent. Avec la communication non violente, on a conscience que nos émotions parlent aussi de nos besoins fondamentaux, de ce qui est important pour nous. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir rejoindre l'autre là où il est et qu'il se sente pleinement entendu. Et quand on reçoit ça, ça fait un bien fou. On rêve tous être écoutés avec empathie. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Il y a un bien-être, quelque chose qui se pose. Et il y a même, les personnes disent combien ça les éclaire sur ce qu'elles étaient en train de vivre, combien même ça a fait un ressenti de sentir qu'on a de la valeur, que ce qu'on ressent, c'est important. Voilà. Et ça nourrit vraiment la confiance entre les deux personnes dans la relation.
Alors, quel est le rapport avec cet atelier et puis cette thématique, le nom de ce festival, Inventons demain? Est-ce que pour vous, il est primordial que l'empathie ait réellement sa place dans la communication au niveau de la société, de l'entreprise, de l'association?
Et oui, je crois que c'est une aspiration qu'on a tous les êtres humains, à pouvoir être... écouter comme ça, avec cette qualité-là, que ce soit dans nos relations de tous les jours, avec nos enfants, avec les personnes avec qui on vit, au travail, dans les réunions, par exemple, le nombre de fois où en réunion, en fait, chacun défend son point de vue, personne n'écoute personne, on sort tous amers. Voilà, en fait, la non-écoute conduit à du mal-être et voire même de la violence. Soit, quand on n'est pas écouté, on le sait, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est pas agréable. Et soit on se referme, soit on réagit. Et on peut des fois réagir fort. Donc, si on élargit, en fait, la non-écoute, elle conduit vraiment à la dégradation des relations, voire à la violence. Alors que l'écoute, elle conduit exactement à l'inverse, à ce que chacun se sente bien, et ce que se sente en paix à l'intérieur, et du coup, à la paix aussi dans les relations. Donc, un monde de demain, je pense que tout le monde rêve d'un monde plein d'humanité, où on fait attention les uns aux autres. Voilà. Et pour moi, cet atelier, il a vraiment beaucoup de sens dans ce festival.
Quel public envisagez-vous de recevoir pour cet atelier? Est-ce qu'il est ouvert à tous ou alors il y a aussi des prédispositions pour des organisations notamment?
Alors non, il est vraiment ouvert à tous. Voilà. À partir du moment où ça parle à quelqu'un, bienvenue. Puisque ça peut servir vraiment dans toutes les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, il est vraiment ouvert à tous. Ouais.
C'est combien de personnes que vous pourrez recevoir pour cet atelier et il y aura donc une inscription au préalable?
Oui, alors il y a une inscription au préalable auprès de moi. Il y a mon mail dans le programme, je pourrais le redonner. Et sinon, il est ouvert largement. On est dans la grande salle de la MJC Nimichèze. Donc, il y a de la place. Et comme, en fait, ça va se passer à des moments, je vais donner des explications en plénière. Et puis après, les personnes vont être par deux. Et donc, en fait, il peut être ouvert largement 20 personnes, même 30 personnes potentiellement, puisque ça va se passer beaucoup par deux. Voilà, il y a de la place.
Ce rendez-vous s'établira sur une méthode pour aborder ce sujet. Est-ce qu'il y aura des exemples ou même des contre-exemples pour appuyer un peu vos propos sur cette démarche de l'empathie?
Donc, la méthode que moi, je propose, c'est la communication non-violente de Marshall Rosenberg, hein, qui est basée sur la compréhension que tous les humains ont des besoins fondamentaux liés à la vie. Et que, et ben que il s'exprime par et que nos émotions révèlent comment nos besoins sont pris en compte dans une situation ou pas. Donc, émotions agréables parlent de que nos besoins sont bien pris en compte dans une situation. Les émotions désagréables parlent de que des besoins ne sont pas bien pris en compte dans une situation. Et en fait, bon, je donne quelques explications, mais on va vraiment. J'ai une manière de guider l'expérience où on va directement dans l'expérience. Et puis, ben, quand on fait la deuxième partie de l'atelier où on va dans les habitudes d'écoute, on va le faire aussi en expérientiel et de ressentir ce que ça fait quand on nous répond comme ça. Et voilà, et c'est montrer, quand on n'est pas dans l'empathie, comment ça crée souvent de la fermeture.
Vous-même, Catherine Schmider, vous intervenez principalement sur les structures de l'économie solidaire et sociale. Et donc, vous agissez au sein d'associations, de collectivités peut-être. Est-ce que le monde de l'entreprise est aussi un domaine sur lequel vous avez un lien?
Oui, tout à fait. C'est vraiment... Il y a des relations partout, hein, quelles que soient les organisations, il y a des relations, il y a des humains et des humains qui aspirent à être écoutés. Donc j'interviens vraiment partout où on me sollicite et de différentes manières. Il y a des endroits où je suis sollicitée pour des formations et puis de plus en plus, en fait, je fais de l'accompagnement d'équipe. En fait, dans la durée, là, il y a plusieurs équipes que j'accompagne 6 demi-journées par an et où... je les accompagne pour traiter les situations qui se présentent et savoir à la fois s'écouter et puis aussi comment s'exprimer pour être comprendre. Voilà. Et puis, ça peut être aussi sur des formes. Là, par exemple, j'interviens parfois pour aussi de la gestion de conflits par des médiations entre deux personnes ou une autre approche qui s'appelle cercle restauratif. Mais ce qui est au cœur, c'est l'écoute. Dans les conflits, souvent, c'est des incompréhensions. Des choses qui se sont vécues et qu'on ne s'est pas dites. Et on est tellement touché qu'on ne sait pas s'écouter. Et donc, à un moment, c'est important qu'il y ait une tierce personne qui, elle, n'est pas touchée dans la situation, qui va vraiment pouvoir écouter une personne, vraiment pouvoir écouter l'autre, ensuite leur permettre de s'écouter mutuellement. Et c'est incroyable comment ça dénoue des nœuds qui étaient là, des fois, depuis des années.
Vous-même, Catherine Schmider, vous agissez au-delà de ce festival sur la région ou dans le département ?
Alors oui, j'interviens, j'ai recentré mes activités pour être de plus en plus proche de chez moi hein, et d'être plutôt dans la vallée de la Drôme, dans la Drôme, en Rhône-Alpes. Mais en fait, sinon, j'ai une action nationale, en particulier en fait pendant 15 ans. En fait, il y a des associations, par exemple à Besançon qui me fait intervenir pour un cycle de formation tous les automnes. Et sinon, pendant 15 ans, j'ai été très investie pour faire avancer la CNV, la communication non-violente, dans l'éducation. Je suis la fondatrice d'une association nationale qui s'appelle Déclic CNV Éducation pour faire connaître cette approche aussi bien aux parents qu'aux professionnels, pour qu'à terme, elle puisse faire partie de la formation initiale des professionnels. On a œuvré en particulier en milieu scolaire. Moi, mon premier métier, j'étais enseignante. Et en fait, tous les métiers d'éducation, c'est des métiers de relation. Et globalement, cette compétence n'est pas dans les formations initiales et on œuvre pour faire avancer ça et avec de belles avancées, en particulier en milieu scolaire où c'est assez essentiel que les enseignants aient ces compétences-là, surtout avec l'évolution de la société, du rapport à l'autorité, etc.
Vous-même êtes visible sur le site de la communication non violente, hein, le site internet, vous êtes mentionné, vous avez votre page, j'inviterai les auditeurs et mettre le lien sur notre texte de présentation sur notre page internet. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc vous-même, vous interviendrez le jeudi 12 mars de 18h30 à 21h30 à la MJC Centre Social Ninichaise sur Aoust-sur-Cie. Pour s'inscrire, il suffit d'écrire à cath.schmider@mailo.com. Je mettrai le lien sur la page du texte et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Eh ben, merci beaucoup à vous de cette occasion de parler de cet atelier qui me passionne. Voilà, bonne journée.
Oui, au revoir.
So see you.